France Culture.
Va déployer bien tes ailes, ma chérie. Mais tu en as de si belles, toi aussi. Ne cherche pas à comprendre. Moi, je sais depuis longtemps qu'un jour se défait le tendre, que l'amour change de camp. Oh là, je me trompe dans les paroles, je confonds les... C'est grave parce que je l'écoute vraiment tout le temps pour le coup, celle-là.
Bonjour le Book Club. Anne Sylvestre, pour moi, c'est une voix qui résonne comme aucune autre et des chansons qui ont ouvert la voie. C'est une femme en avance sur son temps d'abord et le témoin de son époque ensuite, toujours au plus près des sujets de société. Et puis je crois aussi que c'est une grande amoureuse parce qu'il y a dans son répertoire de sublimes chansons d'amour un peu trop sous-cotées. Née dans les années 70, je l'ai évidemment connue enfant avec les Fabulettes et ce n'est que jeune adulte, puis femme passionnée de politique au sens large, de littérature et de poésie, que j'ai pris la mesure de son immense talent.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Une voix qui résonne comme aucune autre, en effet, dans votre Book Club aujourd'hui. Anne Sylvestre nous a quittés il y a tout juste 5 ans et l'on ne cesse de redécouvrir la puissance de son œuvre. Autrice, compositrice et interprète, elle nous a laissé quelques 299 chansons pour ce qui est de son seul répertoire pour adultes. Rassemblés dans un recueil, ces textes s'offrent à nous sous leur forme écrite, nous invitant à les lire pour mieux les entendre et nous donnent l'occasion de nous demander ce qui fait le secret de leur confection. Pourquoi, en quoi sont-ils si vivants, si sensibles et animés? Comment comprendre que chacune de ces chansons s'adresse à chacun et à chacune d'entre nous, nous parle de manière si intime? L'occasion d'affirmer ici la puissance de cet art populaire et de cette écriture singulière, celle des chansons. On est ensemble pour une heure à l'écoute d'Anne Sylvestre. Joyeux Noël et bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Marie Chex, Olivier Hussenet, bonjour, bienvenue bonjour. À bonjour. Tous les deux. Merci bonjour, bonjour. Beaucoup joyeux d'être Noël. Avec nous. Joyeux Noël à vous. Olivier Hussenet, vous êtes chercheur, comédien, chanteur aussi. Vous avez fondé avec votre complice Serge Hureau le Théâtre École des Répertoires de la Chanson, établissement qui forme à l'interprétation, l'arrangement, l'accompagnement des répertoires de la chanson. Vous avez aussi été à la fois le collaborateur et l'ami d'Anne Sylvestre, avec qui vous avez travaillé sur plusieurs spectacles. Et c'est vous qui préfacer et présenter l'ouvrage qui nous vaut le plaisir de vous recevoir tous les deux. Ça s'appelle « Aimer, aimer et le chanter, toutes ces chansons ». Il vient de paraître dans la collection « Point Poésie ». Marie Chex, vous êtes la sœur d'Anne Sylvestre de presque 8 ans, sa cadette si je ne dis pas de bêtises. Vous êtes de passage en France à l'occasion des célébrations qui ont eu lieu notamment autour de l'anniversaire de sa disparition. Vous vivez aux États-Unis le reste du temps. Vous êtes aussi écrivaine, l'autrice de plusieurs livres, parmi lesquels le fameux « Les lauriers du lac de Constance ». C'était votre premier livre, paru en 1974. On aura peut-être l'occasion d'en reparler puisqu'il traitait de votre enfance familiale et de cette part commune à toutes deux. Vous êtes aussi l'autrice d'un livre sur Barbara, notamment, dont vous avez été autrefois la secrétaire. Tout cela pour dire que vous êtes à plus d'un titre excellemment bien placé pour parler d'Anne Sylvestre. On en est sûr. Je vous propose que pour commencer, on lui donne tout de suite la parole à elle, Anne Sylvestre. On l'écoute dans une archive qui date de 2001. Elle était au micro de Kathleen Evin.
Je savais que j'allais écrire. Je ne savais pas quoi, mais je savais toujours que j'allais écrire. Et j'ai commencé à écrire très, très petite, tout en me disant « c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça », en jetant mes poèmes parce que je les trouvais détestables. Je me destinais à être professeur de lettres, mais c'était faute d'autre chose. Et il est vrai que les chansons, j'en entendais comme ça à la radio, mais j'ai commencé à écouter la radio assez tard. Pour moi, la radio, c'était
des mauvaises nouvelles,
c'était des bruits insupportables. Et on a commencé à entendre des chansons. Mais en fait, je ne savais pas du tout, je ne m'étais jamais posé la question, quelqu'un écrit les chansons. Ce sont des choses qui existent. Il y avait les chansons aussi traditionnelles. J'essayais d'apprendre à ma petite sœur, d'ailleurs, qui s'en souvient avec horreur. Et puis un jour, c'est vrai qu'il y a eu des vrais gens qui ont chanté des vraies chansons qu'ils avaient écrites.
Anne-Sylvestre, en 2001 sur France Inter, Marie Chex, la petite sœur qu'elle évoque là, c'est vous, c'est vrai? Vous vous en souvenez avec horreur?
Elle exagère, elle exagérait toujours. Mais quand on parlait l'une de l'autre, ou quand on parle l'une de l'autre, on exagère toujours les... Parce qu'on avait, quand même un côté, une certaine ironie, un certain humour mutuel. Non, mais j'étais pas toujours enchantée, parce que c'est vrai qu'elle me cassait les pieds. J'étais petite, bon, j'avais, disons, ça commençait tôt avec son histoire de chanson. C'est-à-dire que j'avais 5-6 ans, vous voyez. Et elle voulait, elle chantait, elle était dans des... Elle chantait à l'église, parce qu'à l'époque, c'était bon, dans des chorales. Elle était au Guide de France. Parce qu'elle n'aime pas trop qu'on lui rappelle ça, mais bon, c'était les années 50. Hein,
Et c'est pas rien, par ailleurs, dans l'apprentissage de la chanson, de chanter en chorale.
Absolument. Et au Guide de France, c'est toujours elle qui dirigeait tout. Parce qu'elle avait un sens, elle avait une oreille extraordinaire, elle pouvait faire plusieurs voix, elle était très... Et moi, elle voulait absolument m'entraîner là-dedans. C'était pas mal. Je chantais aussi des chansons, mais quand ça devenait comme un cours à l'école, j'étais pas... Elle était sévère.
On a voulu vous faire entendre cette archive pour commencer aussi, parce qu'elle dit ça. Elle dit qu'elle a commencé petite, en fait, non seulement à chanter, mais même à écrire.
Des poèmes, je pense pas qu'elle écrivait des chansons, mais où elle savait pas si c'était des chansons ou pas. À l'époque, c'est bon, il y avait pas... Bon, il y avait Edith Piaf... il y avait Louis Armstrong, il y avait des gens. Et imaginer des chansons à l'époque, c'était impossible. C'est quand elle a commencé vraiment. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle lisait tout le temps. Alors ça, c'était une lectrice incroyable. Incroyable parce qu'elle se posait, elle ouvrait un livre. C'était sans doute pour se laver la tête. Et puis bon, c'était une littéraire. Hein. Alors là, elle m'a rendu des grands services, par contre. Pas très jeune, parce que j'étais pas... Bon, j'étais pas idiote, mais j'étais un peu... Je sais pas. J'ai pas lu comme elle.
Mais elle lisait quoi? Ces lectures?
Les classiques, tout.
Parce que c'est quelque chose, on va en parler, on va détailler ça, mais oui. Olivier Husnet, vous en parlez dans ce recueil, dans votre présentation, dans les présentations des différents albums. On devine bien à lire ces textes ou à l'écouter.
Ah oui,
c'est une écriture, très nourrie. Une écriture en alexandrin. Il y a des références très directes aussi à La Fontaine, notamment.
Non, elle avait une connaissance de la poésie. Elle en a parlé souvent des poètes qu'elle adorait. Et puis, il ne faut pas oublier qu'elle a fait quand même du grec et du latin intensivement aussi. Donc, c'était tout un rythme, toute une... Elle adorait le verbe, les mots. Petit à petit, c'est devenu des chansons. Comme une évidence, et c'est incroyable, parce que c'est à 20 ans qu'elle a vraiment commencé à faire des vraies chansons. Voilà.
Olivier Husnet, avant qu'on détaille tout ça, qu'on rentre dans le cœur même de son écriture, peut-être pour commencer, parce que je ne demande pas à Marie Chex comment elle a rencontré Anne-Sylvestre ou quand est-ce qu'elle l'a vue pour la première fois, puisque c'est sa sœur, mais vous, juste pour introduire votre lien à elle, est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous l'avez vue sur scène ou la première chanson que vous avez entendue? Est-ce que vous avez une mémoire
de ça? La première chanson, je ne saurais pas dire, mais parce que j'étais aussi très jeune, et c'était avec le... disque en fait. Hein. Nous, j'étais pas du tout à Paris, donc j'avais peu de chances de l'avoir sur scène. Et c'était les chansons pour adultes, je suis de la génération des gens qui ont été baignés aux fabulettes. Et moi, j'ai pas eu ça malheureusement.
C'est pas malheureux.
Ça m'aurait pu aussi. Je crois.
Hein,
Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de... Alors les fabulettes, hein, pour le dire à nos auditeurs et nos auditrices qui ne le sauraient pas, c'est un corpus de chansons aussi énorme que ces chansons pour adultes. Donc j'ai dit 299 chansons dans ce recueil.
Je crois qu'il y a 300 fabulettes.
Voilà, il y a 300 fabulettes. On va parler de ce caractère extraordinairement prolixe. Elles ne sont pas rassemblées dans ce recueil-là, mais voilà, c'est une dimension de son œuvre énorme. Mais à la différence de ses chansons pour adultes, elle ne les chantait pas sur scène. Elle a enregistré les fabulettes en disque, mais pas sur scène. Mais c'est une caractéristique de ses chansons pour adultes de, je crois, pouvoir être écoutée aussi par les enfants.
Exactement. C'était ma mère qui écoutait ça vraiment beaucoup avec d'autres. Hein. Il y avait Brel, il y avait un peu Barbara, il y avait d'autres chanteurs et chanteuses, mais j'étais très impressionné par sa voix. Elle avait une voix absolument magnifique et qu'on peut entendre. Cette voix reste là et surtout elle m'a appris à pleurer réellement. C'est-à-dire que je sentais que ça émouvait beaucoup ma mère par exemple et je me souviens que c'est sur les histoires d'Anne Sylvestre et sur la voix d'Anne Sylvestre que j'ai pleuré pour d'autres choses que ce qui m'arrivait à moi. Ça a été mon apprentissage de pleurer pour une histoire qui n'était pas la mienne. Et donc, ça, c'est vraiment un éveil de la sensibilité important. Et c'est vrai que la vie a fait qu'on s'est rencontrés professionnellement bien plus tard. Alors, je l'ai vu, entre-temps, je l'avais vu sur scène et j'avais essayé de la rencontrer après. Et c'est, bon, c'est une expérience que je partage avec beaucoup de gens. Elle était assez accessible à la fin des concerts, mais elle consacrait pas beaucoup de temps et puis elle était facilement froissable, c'est-à-dire que je lui disais mon admiration pour certaines chansons, elle me dit mais et c'est tout ce que vous connaissez, voilà des choses comme ça, et donc on prenait un petit coup de griffe et ça m'est arrivé deux fois et ça m'a pas du tout découragé parce que l'admiration était très forte déjà et puis voilà, et donc j'ai eu la chance de faire un spectacle moi en tant que chanteur à côté d'elle, c'était mis en scène par Serge Giraud dont vous avez parlé tout à l'heure et qui s'appelait Bête à bon Dieu et qui justement faisait référence aussi à son imprégnation de musique religieuse aussi.
Oui,
et
ça
a complètement baigné son imaginaire musical et ça s'entend un peu dans certaines chansons, en tout cas on ressent même cet amour du grégorien qu'elle a un peu formulé à quelques endroits et ça a été une grande aventure et très rapidement, les liens ont été un peu plus forts que des liens de collègues. Quoique, je crois qu'en fait, avec tous les gens avec lesquels elle a travaillé, en tout cas, volontiers, on va dire, elle y a des liens d'amitié. C'était une grande aimante, Anne. Ouais.
Pour revenir sur ces lectures, parce que nous, on a pour habitude au Book Club d'ouvrir nos émissions, lorsqu'on reçoit des écrivains, des autrices, d'interroger nos invités sur leur rapport à la lecture. Aujourd'hui, notre invité, c'est vous, mais en quelque sorte, à travers vous, c'est Anne Sylvestre. Si on lui demandait, quelles lectures ont peut-être tapissé vos jeunes années ou quels auteurs vous accompagnent jusqu'à aujourd'hui, à votre avis, vous sauriez dire quelques auteurs qui ont particulièrement compté pour elle ?
Moi, je ne sais pas, parce qu'elle, pour le coup, elle cache ses références un peu. Hein. Enfin, vous avez cité La Fontaine, c'était évident, et elle le dit, mais ça, c'est sans doute Marie qui peut répondre.
Je crois qu'elle a lu tout. Balzac, Flaubert, Maupassant.
Les grands auteurs
français. Auteurs classiques, français surtout, et elle aimait ça. Vraiment.
Elle aimait les mots et la langue française avec laquelle...
Plus la musique, plus le piano aussi au début.
Et il y a aussi l'arrivée des femmes qui écrivent, et notamment des éditions des femmes.
C'est vrai.
Et elle en parle dans une chanson, elle dit « je découvrais que les femmes écrivaient, je ne savais même pas qu'elles écrivaient et j'allais les lire dans les WC pour éviter les colibets.
Les éditions des femmes, Maison fondée par Antoinette Fouque.
Ce qui était quand même... Oui, elle avait commencé déjà.
Ça, c'est dans les années... Fin des années 60, début des années 70.
C'est ça, c'était vraiment, elle avait déjà. Sa carrière était déjà bien.
Vous voyez, par exemple, une chanteuse, ce qu'elle a souvent raconté, mais la chanteuse qui l'a tout d'un coup déclenchée, c'était Nicole Louvier.
Oui.
Et 1953. Qu'on a pas mal oublié d'ailleurs. Et c'était, parce que pour elle, c'était une des premières qui osait, entre guillemets, chanter et avec ses propres mots. Parce que les femmes, évidemment, on sait bien que les femmes étaient des idiotes, comme les femmes écrivains n'ont pas existé avant, je ne sais quand. Bon, bref. Mais elle a pris conscience et ça l'a un peu...
Oui, c'était 1953, c'était le Grand Prix de Deauville. C'était le prix de la SACEM. Et elle avait 19 ans et c'était la première autrice, compositrice, interprète. Et elle a ouvert cette porte-là. Elle en parlait, effectivement, Anne disait, quand j'ai entendu Nicole Louvier à la radio, je me dis... Elle l'a fait, je peux le faire aussi.
Oui.
Et on va revenir sur à quel point cette triade, autrice, compositrice et interprète, est importante.
Ça a commencé là.
Ça a commencé là et c'est très important quand on réfléchit aussi à cette écriture spécifique et l'écriture de chansons et dans son cas en particulier. Un mot quand même sur ce côté prolixe. Dans l'introduction de ce recueil, Olivier Husnet vous dit donc 299 chansons et vous donnez ce point de comparaison qui est très éclairant parce que 299 chansons, c'est vraiment énorme, hein. C'est un livre d'ailleurs qui fait à peu près 800 pages, qui est un gros et beau livre. Mais vous donnez en point de comparaison, pour se rendre compte. Brassens a écrit de son côté 180 chansons et Barbara 80. Et Dieu sait l'importance évidemment de leur corpus à tous les deux. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce caractère, mais vraiment extraordinairement, prolixe?
Je pense que d'une certaine façon, Marie a donné la piste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui lisait beaucoup et qui du coup avait une facilité d'écriture parce qu'elle avait beaucoup de mots dans la tête. Mmh. Elle aimait les mots. Elle a d'ailleurs écrit ce petit livre en 2014, je crois, aux éditions Point aussi, qui s'appelle Coquelicot et autres mots que j'aime. Ouais. Voilà. Donc, et je crois qu'elle était tout simplement, effectivement, elle avait un grand réservoir amoureux de la littérature et des mots et de la poésie. En particulier. Et donc, je pense qu'elle écrivait, non pas facilement, parce que je pense qu'elle le dit plusieurs fois, que c'est pas si facile, mais elle avait quand même, oui, un vrai...
Une
vraie plume qui glissait quand même, quoi.
Elle a pris... puis au début, elle a chanté pour ses amis, parce qu'elle faisait des chansons. Là, par exemple, Mes amis d'autrefois, c'est une chanson qui date de des quelques années où elle est allée au Glénan. Qui l'ont complètement aussi, j'allais dire, déniaisé. C'est pas ça que je veux dire. Mais là, tout d'un coup, il y avait une autre vie qu'une vie d'écolière, d'étudiante. Et on pouvait faire du bateau, parce qu'elle adorait la mer.
Elle a fait l'apprentissage de la voile avec une bande de copains. Et
oui,
cette chanson évoque ce moment-là.
C'était vraiment comme ça. Le soir, à la veillée, elle chantait. Elle avait sa guitare et puis elle leur chantait des chansons d'autres, des chansons de marine, parce qu'elle était aussi, elle connaissait un nombre de chansons, sur les marins, la mer et tout, des chansons qu'elle essayait de m'apprendre justement. Et puis les siennes petit à petit. Voilà, c'est comme ça qu'elle est venue petit à petit. Mais c'est comme si c'était quelque chose qu'elle s'était empêchée de faire, vous voyez. On était tellement bridés dans l'après-guerre et tout ça, ça a été très dur. Et comme si on pouvait sortir, parler de soi en parlant des autres. Mmh. Et c'était... ça l'a vraiment débloqué. Oui.
Vous parlez de l'après-guerre, Marie Chaix. Peut-être on peut, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout le parcours d'Anne Sylvestre, poser quelques jalons de sa biographie à grands traits. Olivier Husnet, qu'est-ce qu'il faut dire pour qu'on comprenne un peu quels ont été les grands moments de son existence? Elle est née en 1934. Elle a disparu, je l'ai dit, en 2020. Est-ce qu'on peut repérer comme ça des grandes étapes?
Là, pour le coup, là aussi, Marie est très, très bien placée pour le faire. Effectivement, il y a eu cette enfance qui a été comme ça brutalement attaquée par la fin de la guerre avec l'emprisonnement de votre père à toutes les deux.
Un père collaborateur.
Voilà. Oui. Pour expliquer les choses, votre père à toutes les deux a été le bras droit de Jacques Doriot, figure de la collaboration française.
Il est parti en Allemagne, il est revenu pour être jugé, ce brave Albert, en pensant qu'on allait le comprendre, qu'il allait expliquer tout, et en fait, il n'avait rien compris, quoi. Mmh. Et bon, ça, j'ai écrit un livre là-dessus, c'est mon premier livre.
C'est ce livre dont je parlais tout à l'heure, hein, Les Lauriers du Lac de Constance.
Ça a terriblement touché la famille.
Oui, parce qu'il a été emprisonné presque 10 ans.
Il n'est pas passé loin de la condamnation à mort. Il était condamné deux fois à perpétuité, ce qui faisait beaucoup. Avec un peu de ridicule là, dans tout ça. Non, mais et le résultat, c'est qu'il était, il était à Fresnes pendant 8 ans.
Il a été libéré en 55, je crois. Oui. Donc Anne, à ce moment-là, avait 11 ans.
Ben non, mais si vous voulez, la situation, c'était qu'on était complètement on était des proscrits, quoi. Mmh. Et que là, c'est vrai que là, la religion, elle est. En particulier les dominicaines formidables qui tenaient une école à Saint-Cloud. Nous vivions à Suresnes, en banlieue parisienne, où il y avait encore une ferme avec des vaches et on allait chercher le lait avec le seau. Bon, bref, et qui nous ont beaucoup aidés parce que mon frère... Bon, j'avais perdu un frère en Allemagne, qui est mort en Allemagne. Bon, je ne vais pas raconter tout. Mmh. Mais mon second frère, Paul, qui était... Bon, il avait 13 ans de plus que moi. Vous voyez, moi, j'étais vraiment la petite dernière. Et lui, c'était terrible. On l'a traité de fils de collabo, parce qu'il y a eu des articles dans les journaux, patati et patala. Bon, et là, pour ma mère, ça a été le plus dur. Mais bon, elle les a retirés de l'école publique et ils sont allés tous les deux dans des écoles privées. Et moi, je suis allée aussi à Saint-Cloud, chez ces dominicaines. Alors, curieusement, c'est un détail, mais qui est important à dire, la directrice de cette école, qui s'appelait l'école Saint-Pidis, était la sœur d'un grand résistant, Colonel Rémy. Oui. Mais ça, on ne le savait pas. Et elle a été incroyable, je veux dire. Là, parce que là, il y a des parents qui sont venus se plaindre aussi quand on était à l'école. Mmh. Les petits, les filles de collabo, il faut les virer. Mmh. Ce qu'on pouvait peut-être comprendre, j'en sais rien. Mais en tout cas, ces femmes-là, elles nous ont, grâce à elles, on a fait une école, moi jusqu'à la sixième et Anne jusqu'à la, au bac, hein, qui nous ont quand même vraiment protégés. Ouais. On a eu une enfance protégée.
Mais c'est une partie de l'existence d'Anne-Sylvestre bah, Lavaux, bien entendu. Oui. C'est très frappant quand on l'apprend, parce que dans les chansons, il y a d'abord un silence quasi total là-dessus. Oui, oui. Et en fait, on comprend, et plus on avance dans la lecture des chansons, si on lit le livre dans l'ordre, plus il y a quand même apparaissent des touches, des notes d'une pudeur extrême, mais tout de même, en fait, on lit les choses différemment quand on a ça en tête, il me semble.
Ah ben oui, enfin, on s'en est aperçu après. Beaucoup de gens se sont dit après à y chercher dans les chansons. Bon, c'est et moi je l'ai cherché aussi pas mal, mais jusqu'à ce qu'elle dise les choses clairement. Mais pour elle, c'était impossible d'en parler.
Ouais. D'abord, au moment où votre livre est paru, elle voulait pas que vous étiez sœur.
Ah non, alors
voilà,
c'est paru quand
sœur.
Même en 74, le premier livre, et elle m'avait dit, et je lui avais fait lire le manuscrit avant, parce que je voulais pas qu'il y ait quoi que ce soit qui la chiffonne, et elle m'avait écrit deux mois plus tard, j'attendais quand même, en me disant, écoute, d'accord, bon, je comprends, il y a tellement de choses que je ne savais pas, mais s'il te plaît, ne dis pas qu'on est sœurs. Il fallait... Bon, alors je ris maintenant, mais ça m'a fait rire aussi à l'époque. Je dis, mais non, je ne vais pas clamer que je suis ta sœur. Enfin, tu sais, je crois que les gens s'en fichent.
Alors, bon. Olivier Husnet, pour revenir sur juste... En fait, je vous disais les grandes étapes de sa vie, mais c'est de sa vie professionnelle aussi, bien sûr, dont je parlais. Elle commence assez tôt, peut-être il faut mentionner, dans les cabarets de la Rive Gauche.
Absolument.
Et c'est important tout à pour fait. Comprendre donc, aussi l'écriture de ses chansons.
La Colombe, le Cheval d'Or notamment, elle faisait, comme tous les artistes de cabaret, elle faisait plusieurs cabarets dans la même soirée, sinon c'était... trop peu rémunérateur. Et puis c'était la vie, quoi. C'était cette vie de cabaret. On passait d'un lieu à l'autre. Et les spectacles de cabaret étaient, c'était les chanteurs qui étaient là. On passait en premier, en deuxième, en troisième. Et on chantait deux, trois chansons. Quand on était la vedette, on en chantait cinq ou six.
Et ça on en faisait plusieurs parce que c'était quand même pas payé.
C'était pas bien payé.
Et
ça a été pour elle une sorte d'école aussi, bien sûr. Oui. D'autant qu'elle avait.
Cabaret Rive Gauche. Hein.
Rive Gauche, bien sûr. elle avait le trac.
Cheval d'Or, notamment, si je dis pas de bêtises.
Cheval d'Or, la Colombe aussi. Et effectivement, elle avait le trac, elle ne voulait à chaque fois qu'elle sortait de scène, elle disait mais je veux plus le faire, je ferai jamais ça. Et puis en fait, elle y revenait. C'était cette espèce de rapport. Bref, elle avait le même genre de rapport face au trac. En fait, c'était quelque chose comme ça de très pas naturel et en même temps de très désirable. Et puis elle a construit comme ça tout son savoir-faire aussi d'interprète.
Et puis pour avancer un petit peu dans le temps, ses premiers disques, elle fait paraître donc ses premiers vinyles chez Philips. Voilà, donc grande maison. C'est aussi un parcours et une écriture, je pense, marquée par un accès à une forme d'indépendance ensuite. Elle s'est émancipée.
Il y avait un personnage qu'elle a toujours dit très important pour elle, c'était Jacques Canetti, qui a été directeur artistique chez Philips à l'époque. Et qui organisait des spectacles, bon, et qui a cru dans cette jeunesse finalement, parce qu'ils étaient toute une bande, hein. Brel, Béart, Perret, enfin, elle les a tous rencontrés à la Colombe aussi, hein. Et ça, il a été très important pour elle. Il l'a introduite chez Philips, il a eu confiance en elle et il l'a poussée à travailler beaucoup. Oui.
Complètement. Ouais. Et c'est quand il est parti d'ailleurs de chez Philips du coup, son soutien chez Philips ayant disparu, eh bien, elle a été éloignée de la promo, des bacs, etc. Et qu'il y a eu ce procès qu'elle a perdu, alors qu'effectivement, Philips l'avait lâchée. Alors qu'il
il y a eu exactement. Exactement, mais c'était sordide, oui.
Oui, je crois que c'était vraiment l'une contre l'autre. C'était Barbara contre Anne-Sylvestre. Elles étaient toutes les deux.
Oui, alors que personne ne demandait rien, l'une comme l'autre. Barbara, bon, moi, il se trouve que j'ai travaillé pour Barbara après, mais elle était absolument désolée de ce qui s'était passé. Elle est allée jusqu'à chanter Chanson d'Anne. Et ça n'a jamais été enregistré. C'était en tournée, quand j'étais en tournée avec elle. Chantait Lazare et Cécile, c'était merveilleux. Et elle n'a jamais voulu qu'on en parle et tout. Mais elle annonçait. Mais elle était désolée parce que, bon, après, elles sont.
Mais effectivement, ça a été quand même l'occasion pour Anne de devenir indépendante.
Voilà, ben voilà, c'est quand même assez singulier
donc
dans son parcours.
Une étape, c'est aussi, sur le coup, ça a été dur, mais Après, bon, elle a pris ses ailes.
Elle a aussi, Olivier Husnet, vous soulignez aussi que cette indépendance, ça a été aussi un terrain de liberté dans son écriture, et on va le voir, et on va y revenir.
Ça s'est fait en deux temps, parce qu'elle a changé de producteur. Elle, 3 ans, elle est restée chez Metz, et puis ça ne s'est pas bien passé non plus, et elle est devenue autoproductrice. Et ça, c'était vraiment une exception en France.
L'un des bonheurs de ce recueil, c'est aussi de nous faire découvrir, bien évidemment, de nous inviter, si on ne les connaît pas, à aller écouter les chansons moins connues. Et une chose qui m'a frappée, moi j'ai écouté à l'occasion, en ayant lu ce recueil, et vous soulignez que sa toute première chanson, elle s'appelle Porteuse d'eau, et vous soulignez, et en effet c'est frappant quand on l'écoute, que dès cette toute première chanson, au fond, tout est là, d'une certaine manière. Si on devait en dire, mais en quelques mots vraiment, ce tout, c'est quoi, Olivier Husnet?
C'est impossible à dire. Le tout, en tout cas, de cette
en
chanson-là.
En quoi cette chanson-là?
Oui, elle est la matrice. C'est elle qui l'a dit à la fin de sa vie, qu'elle m'avait dit, en écoutant justement de jeunes artistes chanter cette. Et c'était même un jeune homme qui la chantait. Elle m'a dit, il y a tout dans cette chanson-là. Je crois qu'elle l'a dit dans d'autres interviews. Et effectivement, c'est-à-dire à la fois le point de vue d'une femme, déjà. Je pense que ça, c'est important dans l'œuvre d'Anne Sylvestre. Même si elle disait bien, ça se passe pas en dessous de la ceinture. Je suis un écrivain, je suis un auteur. Elle disait pas autrice, mais voilà. Et donc, il y a ce point de vue de femme. Et puis, il y a aussi le fait d'être porte-parole. Je pense que c'est important, elle se disait, je suis écrivain public. Voilà, moi, je suis un écrivain public, je prends la parole pour les autres. Ça, c'est très présent dans Porteuse d'eau. C'est un destin, ce sont toutes les femmes qui sont déjà là. D'une certaine façon, Une sorcière comme les autres, qui est une chanson beaucoup plus connue, aussi connue que Porteuse d'eau, bien sûr, mais qui est un des chefs-d'œuvre plus tardif, eh bien, répond à Porteuse d'eau sur cette manière de prendre la parole à la première personne du singulier, alors qu'en fait c'est un pluriel.
La rime, je trouve que la rime est créatrice. Elle apporte. Souvent, quand je trouve une rime, j'ai toute la suite. C'est créateur,
ça inspire.
Ah oui, formidablement. Et le rythme aussi, je pense à la chanson Mousse qui est sur deux pieds. Au moment où j'ai essayé d'écrire une chanson avec des vers de deux pieds, ça m'a ouvert tout un univers. Et puis ça a fait une chanson qui est étrange.
Mousse, douce. Pousse pas tendre et tendre me prendre quoi semble ressemble ensemble non laisse faiblesse. Pourquoi trembler? ressemble, ressemble, mais laisse, cesse, jamais.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
La chanson est un outil tellement privilégié, à la fois parole et écriture. On parle aux gens, mais on laisse une trace. Quelques mots d'Anne Sylvestre dit un jour à Daniel Pachenko, qui fut son biographe, et c'est une citation que vous reproduisez, Olivier Husnet, dans le recueil des 299 textes de chansons qu'Anne Sylvestre composa, hors son répertoire pour les enfants. Une écriture adressée, une parole vivante, laisser une trace, c'est ce que permet aussi un livre. Elle a chanté l'amour, les femmes, l'oppression, la violence, la tendresse, l'amitié. Elle qui préférait dire « nous » plutôt que « je », mais laisse entrevoir au détour d'une rime quelque chose d'elle aussi. Elle a chanté Marie-Yvonne, Éléonore, Clémence, Grégoire ou Sébastien, des personnages aussi vivants qu'elle l'était sur scène, avec un humour irrésistible et un art de manier les mots proprement saisissant. Il suffit d'écouter les titres de certaines de ses chansons, écrire pour ne pas mourir, chanter les frangines et les amis d'autrefois et nous offrir un mur pour pleurer. Comment les a-t-elle bâties, ces chansons, avec quel sens de la prosodie, de la métaphore, de la figure, de style? Bref, c'est quoi le secret de sa langue? On a le bonheur d'en parler avec vous, Olivier Husnet, orchestrateur de ce recueil, et avec vous, Marie Chex, qui est la sœur cadette d'Anne Sylvestre, qui nous a quittés il y a 5 ans et qui est aussi écrivaine. On a entendu, juste avant la chanson qui s'appelle Mousse, un extrait d'une archive. Anne Sylvestre était au micro d'Hélène Azéra en 2003 pour une série d'entretiens à voix nue. Elle parlait de la rime et de la question de l'expérimentation qu'elle avait fait, en quelque sorte, c'est moi qui use ce terme, sur cette chanson Mousse, hein, entièrement écrite en 2 pieds. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet art singulier, à la fois de la rime et de la prosodie? Il y a quelque chose de très particulier, quand on lit les textes, c'est frappant, parce qu'on entend presque encore plus le rythme que lorsqu'ils sont mêlés à la musique. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Olivier Husnet?
Alors, spécialement sur cette chanson, qui est un peu une sorte de point limite, justement, comme un exercice presque, et je trouve ça incroyable, cette chanson, elle est en fait, pour quelqu'un qui, comme Anne, était d'une extrême pudeur, dans la vie comme dans ses chansons, comme dans son être en scène aussi. Je trouve que dire à ce point la sensualité, je crois rien révéler en disant que c'est une sorte de première fois qui est comme ça narrée dans cette chanson.
D'union érotique, hein. On voilà. pourrait même dire que c'est une chanson sur l'orgasme.
Complètement, oui, et sur une première fois,
minimum,
je pense.
Oui.
Et je trouve que voilà, c'est complètement incroyable de voir comment est-ce que elle utilise du coup le fait de que la syntaxe soit complètement déliée par cette contrainte du vers de 2 pieds pour nous faire sentir. C'est d'une sensualité incroyable, et on c'est vrai que c'est pas l'image qu'on a de d'Anne Sylvestre et de ce qu'elle mais elle parle de ça aussi. Et au détour des chansons, c'est sans doute pour ça qu'elle n'aimait pas trop qu'on commente ses chansons, et elle-même ne les commentait pas, parce que je pense que tout y est, et c'est ça aussi, c'est la profondeur de la poésie dans la chanson, et je pense que tous les auteurs ou les autrices de chansons n'ont pas cette profondeur, en fait. C'est un art assez équilibré, la chanson. Ça n'est pas de la poésie. La poésie, c'est trop dense, c'est trop vertical, c'est trop alors on arrive à mettre de la poésie en chanson, Ferré l'a fait par exemple, Ferrat aussi, mais c'est quand même, on a besoin de réécoute. La poésie doit se relire. Une chanson doit toucher à la première écoute. Et Anne, elle réussit, je pense, cette chose très, très délicate, d'être à la fois extrêmement dense, mais suffisamment limpide aussi, pour que ça reste de la chanson. C'est un art, je trouve, inégalé, en fait.
Et c'est aussi, quand même, il y a quelque chose qui frappe quand on réécoute ces chansons ou quand on les lit comme ça dans un recueil, c'est qu'il y a toujours plusieurs niveaux de lecture, d'une certaine manière. À chaque fois qu'on les écoute, c'est comme si on entendait quelque chose qui nous avait échappé la première fois.
Ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'elle disait bien qu'elle était très stricte. Bon, je ne parle pas de cette chanson mousse, douce, qui est merveilleuse, mais par rapport au... à ses chansons, elle disait il faut que ça raconte une histoire. Mm. Il faut que... Alors, c'était très curieux parce que, étant aussi extrêmement pudique, comme vous l'avez dit, Olivier, c'est... On a l'impression, enfin moi, en les écoutant, qu'il y a eu une cohérence incroyable dans ce qu'elle a écrit depuis le tout début jusqu'à la fin, mais qu'il y a eu une espèce d'ouverture. C'est-à-dire, elle raconte des histoires sans dire ce qu'il y a dedans, mais on les comprend quand même. Je veux dire, il y a un côté qui est les choses qui sont enfermées, c'est comme un secret, mais très... Voilà, quand même très narratif, c'est-à-dire que, parce qu'elle trouvait que les chansons qui voulaient rien dire, c'était pas la peine, quoi. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et mais en évoluant, je trouve qu'elle est devenue meilleure et meilleure. C'est-à-dire, on peut pas dire de meilleure en meilleure. Alors, je sais pas
mais on comprend ce que
mais
vous voulez dire.
Mais par rapport à l'expression, à ce qu'elle avait à transmettre. Et c'est là où tout d'un coup les chansons prennent un relief parce qu'il y a une espèce de il y a une narration dans les chansons et puis elle était quand même extrêmement elle était un peu précurseuse de les problèmes qui nous agitent encore violemment. Hein.
C'est une question que je voulais vous poser aussi, Olivier Husney. Hein. Ce recueil, il est construit selon un ordre chronologique et album par album. Il y a une grande introduction qui l'ouvre et puis après, sur chaque album, vous faites une présentation très précise. Est-ce qu'il y a, en effet, comme vient de le dire Maréchex, une évolution qui se dégage? Parce qu'on a dit, hein, d'une certaine manière, tout est là dès le début, mais malgré tout, dans l'écriture même, on peut lire quelque chose d'une écriture qui se délie ?
Oui, absolument. Et alors, c'est vrai qu'au départ, pour la présentation de ce recueil intégral, comme ça, de ces paroles de chansons, j'avais imaginé même faire des thématiques, c'est-à-dire avoir plutôt, mot que je n'aurais pas employé d'ailleurs, parce que ce n'est pas tout à fait exact, mais en tout cas, comme des filières ou des filons qui traversent effectivement l'œuvre depuis le début jusqu'à la fin. Et en fait, on y a renoncé très rapidement parce que, justement, ça ne laissait pas la lisibilité à cette ouverture que Marie évoque très justement. Et je pense qu'effectivement, elle a creusé son filon. Et donc, chacun de ses filons. Et elle arrive à chaque fois mieux, même si les premières chansons sont magnifiques aussi. Ça, c'est pas pour des... On n'a pas à comparer, c'est juste que ça s'ouvre.
Oui,
et je pense qu'effectivement... Et aussi la porosité au monde qui permet plein de chansons. Je pense à une chanson pourtant pas trop... Voilà, de Lazare et Cécile, qui est un de ses grands succès. Lazare et Cécile, c'est vraiment en lisant ou en entendant, je ne sais pas d'ailleurs, un fait divers. Elle écrit donc de deux jeunes personnes qui se suicident suite à une sorte d'ostracisme d'un village et elle décide de les faire survivre. Enfin, elle décide de reprendre cette situation-là et elle écrit une autre histoire, elle écrit une autre fin. Et il y a une porosité comme ça très grande à l'actualité, justement, et ce que disait aussi Marie est très juste sur le fait qu'elle apparaît du coup comme précurseur, puisque ce qui traîne dans l'air, ce qui est dans l'air, elle le met tout de suite en chanson. Et donc elle va effectivement écrire des chansons au moment du féminisme, notamment de cette vague du MLF. Elle va écrire les chansons avant la loi Veil. Elle écrit 2 ans avant. Elle écrit
Non, tu n'as pas de nom qui fait partie de ses chansons les plus connues. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça redécouverte.
Par exemple. Hein.
Par exemple, bien sûr, il y en a plein. Au fond, il y a, je sais pas le pourcentage, mais il y a énormément de ces chansons qu'on peut lire comme, je sais pas, des petits objets absolument magnifique sur ce que c'est qu'être une femme.
Oui, il y a aussi la maison, enfin une des plus belles chansons, la maison. Comment est-ce qu'on
l'a appelée ? Douce maison.
Douce maison.
Bah justement, je voulais vous proposer qu'on l'écoute parce que c'est une chanson qui en effet à la fois résonne aujourd'hui de manière absolument extraordinaire.
Oui, puis il y a des tas de gens la découvrent comme si ça venait d'être écrit.
Hein. Absolument, et moi j'ai fait partie de ceux-là, pourtant je connaissais Anne Sylvestre et je l'écoute depuis des années, mais je connaissais pas Douce maison. C'est une chanson qui parle d'un viol. On peut aussi l'écouter distraitement sans s'en rendre compte.
Oui, c'est pas dit, mais on comprend.
On comprend, et ça va nous permettre de parler aussi de ce qui est l'écriture de la métaphore, l'image chez Anne Sylvestre, qui est absolument singulière. Là encore, on l'écoute.
C'était une maison douce, une maison de bon aloi, juste ce qu'il faut de mousse répartie aux bons endroits, assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi, et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Elle ouvrait parfois sa porte à ceux qu'elle choisissait, la
La serrure n'est pas forte, maison, tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Advint qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied, ça et là. À plusieurs on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte on l'enfoncera. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Sauvagement, ils pénètrent, dévastant tout devant eux. Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir devant le feu. Avec leurs couteaux, ils gravent des insultes sur les murs. Ils s'en vont faisant les braves quand tout n'est plus que blessure. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. La maison, depuis ce crime, n'a plus d'âme ni de nom. Mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie. Avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. D'ailleurs, une maison sage ne reste pas isolée. Celles qui sont au village se font toujours respecter. Quand on n'a pas de serrure, il faut avoir un gardien. C'est chercher les aventures que de fleurir son jardin. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Passez par la route et si vous avez du cœur, vous en pleurerez sans doute, c'est l'image du malheur. Mais rien, pas même vos larmes, ne lui portera secours. Elle est loin de ses alarmes, elle est fermée pour toujours. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. J'ai raconté l'histoire de la maison violentée. C'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix. Même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, non, je n'invente pas, moi je dis ce que je dois.
De se mettre à écrire, c'est par exemple, je décide, bon, maintenant je vais écrire des chansons, je m'isole, je me mets au couvent, presque, et puis il va falloir y aller. Et c'est difficile au début, c'est quelquefois les choses que j'écris en premier, je les garde pas parce qu'il faut que la machine se remette en route. Mais je suis toujours. Ça m'intrigue. Je sais pas ce qui va sortir. Moi, j'ai l'impression, au moment où je commence à écrire des nouvelles chansons, j'ai l'impression que ce sont des bulles de savon, puis que si j'y touche, elles vont éclater. Alors, il va falloir les reconstituer. L'idée est là, l'idée est belle, mais il faut l'écrire. On peut pas s'étendre, il faut garder son public, il faut que ce soit précis.
Anne Sylvestre au micro d'Hélène Azéra, c'était en 2003 dans la série d'entretien à voix nue sur France Culture. Des chansons comme des bulles de savon, j'aime beaucoup cette archive parce que cette image-là dit en elle-même la puissance de l'image chez Anne Sylvestre pour évoquer le travail de l'écriture. Et cette chanson « Douce maison hein, » qui est une chanson qui date de 1978, qui faisait partie de l'album « J'ai de bonnes nouvelles », avec cette image absolument saisissante de la maison pour dire cette violence du viol. On reconnaît dans cette chanson quelque chose qui appartient vraiment en propre à Anne Sylvestre, qui appartiendrait en propre à Anne Sylvestre, Marie Chaix, du point de vue de son écriture.
C'est l'art de rien dire. On peut le dire dans les deux sens, de tout dire en disant le moins possible, ou vice-versa. Et ça, c'est on le retrouve dans pas mal de chansons. Ce que je disais un peu, c'est il y a quelque chose à l'intérieur qui est là, mais son art, c'est de le définir avec des mots pour que les gens ne restent pas là en se disant qu'est-ce qu'elle raconte. C'est-à-dire, on comprend immédiatement de quoi il s'agit. Enfin, c'est comme non, tu n'as pas de nom, ou c'est comme... ça ne me vient pas comme ça dans les dernières. Aussi, Petit Bonhomme, je veux dire, il y a des... On est là, on est avec elle, on est dedans, on comprend.
Dans cette archive, Anne Sylvestre parlait de la précision qui est nécessaire. Parce que la chanson, les belles chansons, il y a une impression de simplicité quand on les écoute, c'est leur force.
Vous écrivez au fil de la plume.
Voilà, mais en réalité, derrière, un travail extraordinaire, avec une structure extrêmement précise, quoi, y compris dans cette chanson qu'on entend bien.
Il y a à la fois beaucoup d'inspiration, c'est-à-dire que pour le coup, choisir la maison comme métaphore du corps et du moi, c'est une chose qui est tellement essentielle pour les psychologues quand ils veulent savoir si un enfant a un souci. Ils lui font dessiner une maison, la maison c'est le moi. Donc, et ça, Anne Sylvestre, elle l'a senti, elle l'utilise. Donc ça, il faut de l'instinct, il faut une sorte de d'inspiration totale pour trouver cette métaphore-là qui paraît évidente, mais cette simplicité justement n'est pas donnée à tout le monde. Et là-dedans, une précision redoutable. Quand elle dit « crime », c'est une chose qui est très très précise, et le viol à l'époque n'était pas vu comme un crime. Elle avance aussi avec énormément de précision, et d'ailleurs quand elle dit je raconte tout droit, là aussi, pour quelqu'un qui disait souvent en interview je n'aime pas la frontalité, et c'était vrai, mais il y a une frontalité il y a une frontalité qui passe par la métaphore, en l'occurrence il y a une frontalité cachée presque chez elle. C'est ça qui est très étonnant. Mais rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Elle dit exactement, elle décrit tout. Elle donne tous les arguments, tout ce qu'on peut entendre, mais elle l'a bien cherché, etc. Tout ça, elle le dit. Elle ne laisse rien à côté. Voilà. C'est incroyable de réussir à faire cette chose-là avec cette impression de simplicité. Et il y a des enfants qui ont écouté cette chanson-là, n'ont pas compris de quoi ils parlaient. Oui. Ils ont pleuré pour la maison. Et puis au moment de... C'est ce que raconte d'ailleurs Clémence... Sa petite fille, elle dit, moi j'ai pas compris au départ, je pleurais pour la maison, et puis quand j'ai eu l'âge de comprendre, j'ai évidemment compris.
Clément Chevreau, qui est aussi chanteuse sous le nom de Mèche. Et puis non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. C'est vrai que l'actualité de cette expression est absolument saisissante.
Et l'éthique, la chanson finit par je dis ce que je dois. Et ça, la dimension éthique chez Anne, elle est vraiment importante.
Je l'ai mentionné rapidement en passant tout à l'heure, il y a aussi une écriture du personnage vraiment chez Anne Sylvestre. Quand on pense à ses chansons, on pense à Marie-Vonne, on pense à Clémence et tant d'autres, Grégoire ou Sébastien. C'est des êtres qu'on a presque l'impression d'avoir rencontrés, exactement comme dans des romans. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Comment elle réussit à faire exister ces personnages-là dans ses chansons ?
Je pense que c'est la force de l'observation, le talent, le don, une espèce de don inné.
Reformule ma question peut-être plus précisément, parce qu'en effet, comment elle fait, on ne sait pas très bien. Mais si on devait décrire quelque chose qui serait commun à tous ces personnages, s'il y avait une sorte de fil qui les reliait entre eux, qu'est-ce qu'on pourrait dire ?
Ils sont racontés par une histoire. Ce ne sont pas de vrais portraits. Ce sont des portraits en action. C'est des choses qui leur arrivent, en fait. Et je crois qu'il y a dans le choix des prénoms aussi. Bon, alors c'était un peu une obsession aussi personnelle d'Anne, qui dans la vie donnait des prénoms même aux choses. Elle renommait tout. La voiture, Berthe, etc. Par exemple, l'ordinateur. Chaque objet du quotidien avait son prénom. Mais au-delà de ça, effectivement, je pense qu'il y a une force de presque d'engendrer une chanson. Et je crois que le fait de non pas intituler, mais de dénommer, de prénommer une chanson, c'est un acte presque de gestation. Et c'est ça qui fait la puissance d'évocation, à mon avis. Il y a un geste là qui est très étonnant et qui est de donner vie à un être vraiment. Et du coup, le personnage et la chanson, c'est presque la même chose.
Il me semble que la question du nom, elle est assez centrale, en effet. On peut penser, bien évidemment, à cette question qui s'appelle « Non, tu n'as pas de nom », qui parle de la question de l'avortement, pour le dire vite et mal. Mais il y a aussi cette chanson absolument magnifique qui s'appelle « Si vous le savez, comment je m'appelle ». Qu'on peut aussi, il me semble, entendre comme un écho à l'histoire que vous avez racontée tout à l'heure. Hein, Marie Chex, Anne Sylvestre, c'est un pseudonyme, et c'est pas rien de chanter sous pseudonyme.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle y avait, je pense qu'elle s'est complètement, excusez-moi l'expression, lâchée dans les chansons. petit à petit. Et il y a beaucoup de choses qu'elle pouvait, elle n'aurait jamais pu dire. Et qu'enfin, elle a pu... Mais alors là, juste une anecdote très rapide, c'est quand, moi, combien de fois on m'a dit « Oh, mais pourquoi vous n'écrivez pas de chansons ?» Et à ma sœur, « Ah, oh, mais pourquoi vous n'écrivez pas de livres ?» Et c'est impossible. Je veux dire, bien, non, bien sûr que non. Elle, elle était furieuse quand on lui posait ce genre de questions. Moi, un peu moins, parce que j'essayais de temporiser. Mais non, parce que
furieuse
c'est pas...
parce que ce sont deux choses qui n'ont rien à voir.
Elle dit, mais je ne sais pas écrire. Je c'est pas mon but. C'est pas ça. Et il y a beaucoup de choses aussi qui sont dues à son inconscient dans toutes les chansons, évidemment. Des choses qu'elle a dû découvrir en les ayant écrites. Vous voyez ce que je veux dire? Ça arrive aussi avec les écrivains. Enfin, ça peut arriver. Mais c'est vraiment l'écriture, ça. C'est vraiment l'écriture, mais avec une sorte de profondeur, enfin de oui. Ouais.
Sylvestre, le choix de ce nom-là, malgré tout, est-ce qu'on sait
Oh bah oui, voilà, moi je sais, alors, ah, parce qu'on en a cherché des noms. Eh ben, la légende, enfin c'est pas une légende, parce que c'est vrai, elle avait choisi un autre nom que je ne dirais pas, mais qui aurait été assez drôle, et qui commençait par un F, et malheureusement, c'était un nom qui, dans la famille de ma belle-sœur, la femme de mon frère Paul, était le nom d'un mari décédé. Et ça a fait un scandale dans la famille. Ah non, tu m'as dit, c'est noir. Alors, c'est vrai qu'on a, on est toutes les deux, on a pris le
dictionnaire.
Pas le dictionnaire, un calendrier avec tous les prénoms. On ne trouvait pas. Sylvestre, c'était le dernier. Allez hop, allons-y pour Sylvestre. Et comme c'était les arbres et la verdure et la campagne, elle adorait, donc voilà.
Mais c'est la vraiment nature, comme c'est ça. Très présent dans ses chansons. Absolument. Par ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est une dimension tout à fait importante de son écriture. Dans cette émission, on a pour habitude de faire intervenir nos auditeurs, nos auditrices. Je voudrais qu'on écoute la question que Séverine vous adresse.
Bonjour Book Club. Anne Sylvestre, pour moi, c'est une voix qui résonne comme aucune autre. Depuis quelques années, je dois dire que c'est son engagement, enfin, comme elle n'était pas adepte de grands mots, disons, sa solidarité envers la cause des femmes qui a pris le dessus sur le reste, pour moi. Elle se méfiait des étiquettes, mais en vérité, elle est bien une féministe, puisqu'elle a dit aux femmes qu'elle les comprend, les soutient, les croit quand elles parlent, quand elles se battent, quand elles sont opprimées, violentées, exploitées, condamnées. Pas un seul jour ne passe sans que je pense à elle. Anne Sylvestre, je dirais enfin que ce n'est pas juste une femme. Si j'osais, je dirais que c'est la femme de ma vie. J'aime vraiment toutes ses chansons. Alors, ma question aux invités est la suivante. Y en a-t-il une ou plusieurs que vous n'aimez pas du tout? Et pourquoi? Merci pour votre réponse.
Merci Séverine pour cette question originale. On a parlé beaucoup des chansons qu'on aimait, bien sûr, toutes et tous. Un peu moins des chansons, en effet, qu'on aime moins. Marie Chex, est-ce qu'il y a une chanson que vous aimez moins?
Ben oui, enfin, il y en a plusieurs, mais là, je vais pas penser à toutes. Mais il y en a une qui m'a toujours posé des problèmes, c'est une chanson qui s'appelle « Le Western » et qui doit être Olivier.
Oui, c'est ça, c'est le western. Oui, où elle met en scène Calamity Jane.
Oui.
Et elle fait le pendant avec, enfin le rapprochement avec aussi Jeanne d'Arc. Je crois qu'elle évoque en fait sa maladie. Elle évoque le cancer.
Oui. Mais voilà. Autant je trouvais drôle l'idée qu'elle fasse ce spectacle sur Calamity, mais autant je trouve pas qu'elle était dans son
Sur
drôle.
299 chansons, on peut dire que c'est autorisé d'en aimer un peu moins quelques-unes. Et vous,
moi,
Olivier Husnet,
c'est une question impossible pour moi.
Impossible pour vous.
Okay. Parce que même les chansons que je comprenais moins, et notamment, il y a toujours une chanson que j'ai eu du mal à comprendre, en faisant ce travail, j'ai tout à fait comprise, et qui est formidable, qui est L'Honneur, par exemple. L'Honneur, l'honneur, ça se mange en salade.
Ah oui.
Et le bonheur,
oui.
Pauvre malade, le bonheur, il est pour les chiens. Je ne comprenais pas, parce que en termes d'énonciation, c'est pas si clair. Et en fait, c'est une chanson limpide. Sur le fait que dans le monde moderne, on a tendance à bazarder l'honneur, à ne pas du tout voir que c'est un outil qui va nous aider à choisir sa conduite. Et elle a dit, oui, mais si on balance l'honneur, qu'est-ce qui va rester et qu'est-ce qu'on va transmettre aux enfants?
Et à l'inverse, vous allez me dire que c'est impossible, mais je vous pose quand même la question, si vous ne deviez en retenir qu'une, et y compris parmi peut-être les moins connues, parce qu'encore une fois, ce recueil nous permet de découvrir des chansons qu'on connaît moins. Voilà. Vous avez le droit de dire, c'est pas possible.
Il y en a une hyper connue et qui est pour moi un summum absolu, c'est Une sorcière comme les autres. Mais donc, je ne réponds pas à votre question parce que c'est une chanson très connue, mais qui me semble vraiment une espèce de miracle, de chef-d'œuvre. Je pense que c'est la chanson la plus belle du XXe siècle.
Ouais, et c'est voilà. Une très belle chanson.
Dans les moins connues, il y en a énormément.
Moi,
en fait.
J'ai beaucoup aimé Léonore. Léonore. C'était Léonore. C'est un thème qu'elle a abordé très très souvent, ça. Madame ma voisine, enfin bon.
Mais sinon, peut-être que Partage des eaux est très connu, mais c'est une chanson là aussi sublime. Partage des eaux, c'est extraordinaire.
On n'a pas eu le temps de tout dire, évidemment. Je ne voudrais pas qu'on se quitte sans mentionner l'extraordinaire humour, gaieté des chansons d'Anne Sylvestre. Je vous lis un tout petit texte, sans musique, extrait du début de la chanson qui s'appelle « Tout se mélange ». On va dire que j'exagère, mais je connais des étagères qui se prennent pour des gens. Tout bien rangé dans la tête, tout bien muni d'étiquettes, mon Dieu que c'est dérangeant. Quand ils sont à leur ouvrage, il faudrait un grand courage pour leur parler sentiment. Dès qu'ils ont baissé la herse, bien malin qui la traverse, ou plutôt bien imprudent, chez moi, c'est tout différent. Voilà, on va dire que j'exagère, mais je connais des étagères qui se prennent pour des gens. C'est un petit cadeau de Noël pour nos auditeurs.
France Culture. Le Book Club, Mathilde Wagman.
Et à cette heure-ci, dans votre Book Club, on a pour habitude d'aller chercher de la musique dans des livres. Et aujourd'hui, bien évidemment, on a été chercher des références d'Anne Sylvestre dans des romans qui sont parus. Il y en a plusieurs. Beaucoup d'écrivains font aujourd'hui référence à Anne Sylvestre. Ils sont beaucoup à l'avoir découverte au fil des années. Je vous propose d'écouter un extrait d'un roman qui est paru tout récemment d'une autrice qui avait été reçue ici même par Marie Richeux. Il s'agit de Tombora, le dernier roman d'Hélène Lorrain paru chez Verdier. Comment faisaient les Romains quand leur empire s'écroulait? J'aimerais qu'ils me donnent 2-3 astuces. C'est intéressant. En même temps, une civilisation qui s'effondre, tous les gamers vous le diront. Observons et buvons nos cocktails pendant que le bateau coule. Rions des premiers pas de notre fille sur le Titanic. Réjouissons-nous que notre aînée apprenne à lire dans le vol avant le crash. Je veux brosser vos cheveux jusqu'à ce qu'ils soient ce serpent brillant dans ma main. Sentir nos ventres se gonfler l'un contre l'autre, enfiler les vêtements sur vos membres hésitants, caresser si doucement vos joues que je n'en touche que le duvet. Je veux jouer au domino dans la maison sainte par l'ouragan, écouter Anne Sylvestre alors que l'eau lèche les façades, cuisiner un gratin sous les œufs de grêle éclatant les Vélux, vous faire prendre le bain quand la fumée noircit le ciel.
Si la pluie te mouille, mon amour nouveau, si la pluie te mouille, n'aie pas peur de l'eau. Tu te fais grenouille, mon amour tout beau, et la pluie vadrouille le long de ton dos. Si le vent t'évente, mon amour léger, si le vent t'évente, ce n'est pas un danger. En feuille volante, tu peux te changer, en feuille mouvante, sans te déranger. Si la nuit te cache mon si clair amour, si la nuit te cache, reviendra le jour. Rompons nos attaches, prenons ce détour qui déjà nous lâche dans le petit jour.
Un très grand merci, si Olivier Husney et Marie Chex, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Aimer, aimer et le chanter, c'est le titre de ce recueil des chansons d'Anne Sylvestre. Or, les fabulettes, parues dans la collection Poésie des éditions Point, parmi d'autres parutions qui célèbrent les 5 ans de la disparition d'Anne Sylvestre, je signale aussi une biographie signée Jean-Daniel Belfond aux éditions Le Cherche Midi. Et puis la sortie toute récente d'un album hommage à Anne Sylvestre, Rendez-vous chez Sylvestre, chez BC Musique, la maison d'édition qu'Anne Sylvestre avait fondée. Album de reprise de chansons par des admirateurs. Et puis bien sûr, il faut aussi l'écouter, elle. À la réalisation aujourd'hui, c'était Vivien Demeyer et Anna Holweck, au son Bastien Varego. Un grand merci
à toute l'équipe du Book Club et tout particulièrement aujourd'hui à Lou Quevauvillé. On poursuit la conversation sur les réseaux grâce au compte Instagram de l'émission animé par Alexandre Alaïbegovitch.
Ce n'est que de